croyons en un Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce mystère qu'il est courant d'appeler chez les catholiques la Trinité reste un véritable mystère en ce sens qu'il s'agit d'appréhender trois personnes dans un Dieu unique, mais en même temps immuable et donc pourtant soumis à un mouvement. Il faut repartir de Jésus. Il faut repartir de Jésus. Aucune valeur chrétienne, aucune vérité chrétienne n'est vécue ou proposée en soi, mais toujours en la personne de Jésus. Il s'agit donc de connaître cette personne, puisque le Christ le dit lui-même. Vous avez du mal à me comprendre quand je vous parle de le langage des hommes, comment me comprendriez-vous si je vous parlais le langage de Dieu? Il faut donc admettre, comme étant de foi, et ce que tout catholique admet, que Jésus, en tant que fils de Dieu, est la parole même du Père. La parole, le verbe du Père, le fils de Dieu. Il s'agit donc d'abord de connaître Jésus. Mais prenons garde aussi que, sous couleur de n'avoir que Jésus à la bouche, nos dévotions nous créent un Jésus à notre convenance, au risque de n'être pas conforme à la réalité du Christ. Avant d'être quoi que ce soit d'autre, avant que nous soyons amenés à dire qu'il y a en Jésus plus que Jésus de Nazareth, nous devons partir du fait que Jésus est d'abord Jésus, c'est-à-dire une personnalité qui s'impose bien au-delà de tout ce qui a humainement contribué à le façonner. Son éducation, son incarnation, sa manière de lire la loi et de réinterpréter les prophètes, c'est quelque chose qui est bien au-delà de... C'est une réalité qui est au-delà de tout cela. Il porte en lui seul la raison suprême et suffisante de ce qu'il fait et ce qu'il dit. Il parlait avec autorité et non pas comme les scribes. Il ne se recommande de personne. Il ne se rattache pas à tel courant. Il ne se rattache pas à Jean le Baptiste. Il ne se rattache pas aux Esséniens. Il n'est pas pharisien. Il n'est pas zélote. Non, il est la seule personne dont il se recommande, c'est celui qu'il appelle son père. Il n'a ni diplôme, ni maître humain. Il est demeuré libre de toute allégeance, et à la différence des rabbis qui justifiaient leur interprétation des livres saints par des références aux opinions des anciens, Jésus pose ses paroles, non pas, même pas comme un commentaire absolu, mais comme étant la vérité de la parole. Il ne nous dit pas « ce que je vous dis est vrai » parce que ceci ou cela, non, c'est vrai parce que c'est la vérité elle-même qui s'exprime. Il précise d'ailleurs que toute l'Écriture a parlé de lui. Il reconnaît en Jean-Baptiste celui qui était spécialement envoyé pour préparer les voies devant lui. Et pourtant, quand il parle à son tour, c'est quelque chose d'absolument neuf. Il ne dément pas ceux qui parlaient de lui. Il reprend à son compte bien des affirmations des Écritures, mais il n'en dépend pas. Même le Baptiste est quasiment un précurseur inutile, en ce sens qu'il peut se passer de son témoignage. C'est lui qui parle et qui prend l'initiative d'une parole dont l'autorité a frappé tous ses auditeurs. Marc 1, 22. Matthieu 5, 22, « Moi, je vous dis. » Ce faisant, il se manifeste donc comme un homme libre, avec une parfaite spontanéité, il interpelle, il répond, il rétorque, sa parole est un événement, au point que la question ne pouvait pas ne pas se poser. Jésus parle, mais qui donc parle? Or, Jésus ne se contente pas de dire certaines choses, mais en parlant, il exprime qui il est. Son identité n'est pas une énigme, dont le mot ne serait livré qu'à la fin d'un discours, avec l'apport d'un nouvel élément. Ça n'est pas comme un coup de théâtre où on apprend, comme au théâtre, par une lettre, que la servante est fille de prince ou que le gentilhomme hérite d'une fortune fabuleuse. L'identité de Jésus est dévoilée, elle est donnée en chaque geste et en chaque parole. Comme la lumière très lointaine touche la plaque sensible, la plaque photographique, dès la première seconde, et cependant n'apparaît qu'au bout d'un certain temps d'exposition, ainsi a-t-il fallu aux disciples, comme à nous tous, un certain temps d'exposition à la parole. Je dirais qu'il faudrait presque prendre des, comme on dit, prendre des bains de soleil, mais prendre des bains d'évangile, d'être exposé suffisamment longtemps à cette parole pour percevoir de quelle source elle provient et de quelle lumière elle témoigne. Même Jean, a mis du temps, un temps beaucoup plus long que celui qu'ont eu les autres apôtres, puisqu'il est mort très âgé, une longue vie de chef d'église et d'évangéliste, pour percevoir que Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui parle comme personne n'a parlé, mais qu'il est la parole même, le Verbe, Jean 1, le donneur de sens. Tout ce qui parle, tout ce qui est parole intelligible adressée à quelqu'un, parle à partir de Jésus, à partir du Verbe, parle pour le Verbe, parle du Verbe. Mais bien avant qu'on arrive à ce sommet de la révélation, qu'en disent ses contemporains ? Jean-Baptiste, il est Jean-Baptiste, il est Élie, mais pour vous, leur demanda-t-il, « Qui suis-je ? » Prenant alors la parole, Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Marc 8, 27, 29. Donc, Jésus est le Christ. Notre mot français, « Messie », n'est que la traduction d'un mot hébreu, « Mashiach », qui veut dire « oin », c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. C'est la transcription de la traduction grecque « Christos ». Et l'onction d'huile parfumée était utilisée pour désigner une consécration spéciale au service de Dieu. On le voit déjà dans l'Exode, on le voit dans le livre de Samuel pour David. Cela signifiait que le roi était investi d'une mission venant de Dieu au service de son peuple. Libérer le peuple des oppresseurs, le rassembler dans l'unité, le gouverner selon la volonté divine afin qu'il soit heureux et prospère. Dieu était censé, en quelque sorte, prendre le roi sous sa protection, être avec lui. Mais le roi ne pouvait trahir ou exploiter cette onction reçue. Des prophètes, pour se désolidarisés de ces injustices, prennent la parole. Et Saül s'est même vu rejeté par le Seigneur. On peut dire que toute l'attente d'Israël, le thème messianique par excellence, c'est l'attente d'un autre David, d'un roi qui recevrait l'onction de Dieu pour opérer un salut aux dimensions du monde. Et toute l'histoire d'Israël va converger vers ça. Les uns après les autres, les successeurs de David vont décevoir l'espoir que les Juifs avaient mis dans la royauté. Après la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor en 587, il n'y a plus rien. Lorsqu'un État juif se reconstituera, quelques 70 ans plus tard, c'est le grand prêtre qui prend l'importance qu'avait le roi. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, on voit bien que le grand prêtre a plus d'importance même qu'Hérode. Mais les prophètes, eux, ne continuent, je dirais, à espérer. Alors, qu'est-ce que ces hommes qui veulent mettre la main, ces hommes qui sont les disciples, ces hommes qui sont les apôtres? Mais ils savent aussi que si Dieu ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons, dit le psaume 127. Il est capital de souligner que les mots justice, paix, amour, fidélité, bonheur deviennent vrais sur notre terre une fois pour toutes. Et il est capital de souligner qu'il s'agit de tout autre chose que de ce que nous pourrions appeler un idéal, c'est-à-dire un idéal, quelque chose vers lequel on tend, quelque chose que l'on veut atteindre, mais qui, par définition, puisqu'il est un idéal, n'est pas atteignable. L'idéal n'est guère qu'une une projection d'aspiration, qui est d'ailleurs modelée sur nos désirs. L'idéal de l'homme attaché au bien matériel, c'est la richesse. Il veut gagner un euro million. L'idéal du moine ou du priant, c'est de s'unir à Dieu. Et ce n'est pas facile. Notre mentalité a complètement banalisé la notion d'idéal et en même temps l'a remise à sa vraie place. L'idéal ne peut tenir que par un oubli volontaire de la force des choses. L'idéal fait abstraction de la réalité. L'idéal ne supporte pas de se heurter à une réalité qui va contre lui ou qui l'empêche. L'attente messianique, c'est tout à fait différent. Elle s'intensifie et elle se purifie par cette même force des choses qu'elle éprouve à fond et qui l'accule à refuser tous les trompe-fins. Nous en avons un exemple assez fort lorsque nous faisons l'expérience du deuil. Lorsque on perd un être aimé, on a l'impression qu'on a tout perdu. Même si l'on est chrétien, on se dit que tout est fini. On doute, on se révolte. Et une fois qu'on est effectivement au fond du gouffre de la finitude humaine, le seul moyen de rebondir, c'est d'espérer, non plus un idéal, mais la vie éternelle. Et c'est à ce moment-là que, comme le dit l'Écriture, notre tristesse se change en joie. Cela est impossible à l'homme seul, mais possible à ce Dieu avec les hommes qui, par instant, rend cette attente messianique comme imminente. À cette heure, dans ce bouillon d'espérance messianique, ça se passe au bord du Jourdain, à Jéricho, dans le lieu le plus pauvre du monde, les plus grandioses aussi. C'est là que Jean-Baptiste commence à laisser filtrer le secret dont il est dépositaire, et que les premiers disciples de Jésus commencent à soupçonner la vérité. André va trouver son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et à cette heure-là, la vie publique de Jésus est commencée, rien ne peut plus l'arrêter. Entre le temps où il dit au Baptiste « Il nous convient d'accomplir toute justice » et Matthieu 3,15 « Et l'instant où il murmure sur la croix, tout est achevé » Jean 19,30 « Il ne se sera guère écoulé que 30 mois. » 30 mois qui ont transformé la face du monde, le cœur des hommes et le sens du destin humain. Saint Paul nous dit que le Christ récapitule en lui le destin de tous et de chacun, jouant ainsi le rôle du nouvel Adam. Ce faisant, il n'a pas confisqué le destin humain, il ne l'a pas enfermé dans un destin où tout serait écrit, il en a révélé les dimensions, l'horizon et l'enjeu. Il rend à ceux qui perçoivent, qui reçoivent cette révélation, il leur rend l'usage de leur liberté. Il libère les captifs du mensonge. Mais que nous le sachions ou non, que nous soyons chrétiens ou pas, Tous ces actes nous concernent tous. D'une manière qui demeure très mystérieuse à nos yeux, il est le point de passage obligé de tout homme vers l'accomplissement de son destin. Ce qu'a vécu Jésus, en fait, fait complètement partie de notre histoire personnelle. Où il y a une solidarité qui s'établit entre Dieu et l'homme, et qui s'établit une fois pour toutes, depuis que Jésus a achevé ce qu'on pourrait appeler le moment charnel de son œuvre, puisqu'il était là avant la création du monde, et il sera aussi après là quand le monde sera recréé, mais une fois pour toutes, depuis que Jésus a achevé le moment charnel de son œuvre, c'est-à-dire le moment où il est né, mort et ressuscité. Et ces certitudes, c'est pas évident à tenir et à manier. Et d'ailleurs, les chrétiens ont été assez souvent maladroits en travestissant finalement l'évangile, en essayant d'expliquer ce qui est inexplicable, en essayant de dire l'indicible, jusqu'à arriver à des propositions presque illogiques. Un seul Dieu en trois personnes. Oui, absolument. Parce que ces chrétiens ont peut-être été maladroits, mais il leur revient d'annoncer, parce qu'elles sont bonnes nouvelles, qu'elles ont la vérité d'un état de fait et qu'elles communiquent à ceux qui les reconnaissent l'abondance de la vie même du Christ. L'Évangile nous montre le Christ particulièrement proche de toutes sortes de gens que l'on pourrait croire très éloignés d'une quelconque religion, y compris ses enfants que les disciples croient bon d'écarter, y compris cette femme qui gaspille du parfum alors qu'on aurait pu nourrir des pauvres. Et le chrétien est secrètement instruit par ces épisodes évangéliques. Et donc, cela nous dit que tout chrétien doit respecter en chaque homme le mystère de sa relation au Christ, y compris en respectant la liberté de celui qui la nie. Car ce n'est pas ailleurs que grâce à sa liberté qu'il pourra reconnaître le Christ le jour où le Christ se manifestera à lui. Et cette relation, malheureusement, est pour nous tellement certaine que nous cherchons à en discourir quelquefois avec presque une certaine mauvaise foi. On veut absolument, comme s'il fallait absolument défendre une cause. Mais comment accepter que les publicains et les prostituées nous précéderont dans le royaume des cieux? Comment arriver à effacer des siècles basés sur une théologie du mérite où l'on gagnait son ciel? La liberté consiste justement à dire « j'accepte que cela soit gratuit ». Parce que si je suis vraiment libre, je suis libéré de tout, même de mes bonnes actions. Et même de mon péché, puisque c'est au moment de la rencontre que j'aurai l'ultime liberté de dire oui ou de dire non. Le Christ est encore aussi le chef de l'humanité, en ce sens qu'il oriente sa marche afin qu'elle atteigne sa maturité et qu'elle débouche dans la vie éternelle et la gloire divine. Mais cela, c'est aussi le problème d'une humanité en mouvement. Nous savons que depuis sa résurrection, comme dit Jean, il a planté sa tente parmi nous, et le mot de Jean évoque la manière dont Dieu, dans la longue marche d'Israël, accompagnait son peuple marchant avec lui. L'un des grands problèmes des chrétiens actuels est probablement de reprendre conscience de cette vocation en redécouvrant la véritable et permanente mission du Christ agissant dans son Église. Et si nous ne le faisons pas, nous manquerons aux hommes, le Christ manquera aux hommes, et tous les hommes manqueront à leur destin. Tant d'hommes aujourd'hui se débattent comme ils peuvent entre la conjoncture d'un monde où les tâches sont innombrables et urgentes, les exigences de leur conscience pour travailler, les ressources d'action qu'ils trouvent à leur disposition dans notre société, et pour beaucoup, les restes d'un christianisme dont ils ne sauraient eux-mêmes dire s'ils sont en train de le perdre ou s'ils commencent à le redécouvrir. Et peut-être faut-il que certains, nous les premiers, perdions ces souvenirs de christianisme afin de redécouvrir plus vraiment l'Évangile. Le chrétien convaincu doit savoir que sa foi dans le messianisme, la messianité de Jésus, c'est-à-dire le fait que Jésus est le Messie, est la chance de tous pour qu'autant de générosité ne s'égare pas. Par la manière dont le chrétien imitera la vie du Christ et le mystère, surtout du Christ confessé comme tel, ce mystère que je crois, mais que je ne peux comprendre, alors il pourra, ce chrétien, manifester comment le Christ est le chemin, la vérité, la vie, Jean 14, et la lumière du monde, Jean 9. Enfin, le Christ est le chef et le centre de l'humanité, en ce sens qu'il la regroupe tout entière autour de lui, à travers les millénaires terrestres. Il récupérera, si l'on ose dire, toutes les générations successives à l'heure de la résurrection. Lui, individu de la race humaine, mais en même temps personne divine, manifestera que tout individu de la race humaine est à jamais son frère et qu'en l'associant à la vie des personnes divines, il le maintient comme personne libre en communion parfaite et bienheureuse avec le peuple éternel. Alors, ça sera le dernier acte de la mission messianique, la consolation définitive. Dieu aura sa demeure avec les hommes, ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n'y aura plus de pleurs, de cris, de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en sera allé. Et effectivement, nous pouvons lire, celui qui siège sur le trône déclara « Voici que je fais toute chose nouvelle ». Cette récupération totale de l'humanité, avec ses faiblesses, avec ses moments noirs dans son histoire, ses souffrances, ses crimes, ses violences, mais aussi ses bonheurs, nous donne la certitude du caractère indestructible de la personne humaine. Cette espérance d'une éternité réelle, cela constitue la perspective que les chrétiens ont en propre. Il est étonnant que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas en quoi la lumière où baigne notre existence est devenue différente. Pourtant, le soleil est le même qu'il y a 2000 ans, mais depuis 2000 ans, il est devenu différent. Le Christ a éprouvé cette émotion profonde. Je suis venu apporter le feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il soit allumé. Il disait, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout petits. Et surtout, c'est exactement ce qu'il disait à ses apôtres le soir du jeudi saint. Je désirais avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai jamais plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Et ce ton tellement humain de ces paroles du Christ nous rappelle que le Christ, dans sa fonction messianique, de chef et de centre de l'humanité, n'est pas une personnalité mythique. C'est ce Jésus de Nazareth en son âme et dans son corps. À aucun moment, Jésus n'endosse un personnage. À aucun moment, Jésus ne quitte le costume du fils du charpentier de Nazareth pour endosser l'uniforme de fils de Dieu ou la robe royale du fils de Dieu. Il ne s'agit pas d'opérer un jeu symbolique qui dépasserait de partout sa propre personne de rabbi galiléen. Non, il s'égale avec bonheur à sa fonction. Et c'est ce que nous avons le plus de mal à comprendre, en fait, c'est cette vérité profonde, c'est que si Dieu se fait homme, alors l'homme est appelé à devenir Dieu. Non pas un Dieu tout-puissant, non pas un Dieu comme nos mythologies nous les apprennent, non pas un Dieu qui fait des miracles, mais un Dieu qui assume complètement l'humanité. Ce que je vais dire peut être mal compris. Je vous prie de prendre cela comme un discours où on essaye de dire l'indicible. Mais à partir du moment où Dieu se fait homme, on peut imaginer, même s'il n'existe aucun désir en Dieu, que Dieu a désiré l'humanité. Que Dieu a désiré l'humanité et que, je dirais, que la dimension de l'incarnation était la seule dimension qui manquait à sa personne, si on peut dire qu'il manque quelque chose à Dieu, ce qui est hérétique, je sais, mais ne chipotons pas, à partir du moment où, intégrant l'humanité dans sa personne, premier-né d'une multitude de frères, à ce moment-là, c'est l'humanité entière qui rentre dans ce jeu de relation avec les personnes divines. Et c'est là que nous rejoignons la Trinité. Parce que si je suis frère de Jésus, je suis fils de Dieu. Et ça, c'est peut-être la plus grande, la chose la plus inouïe, c'est que le Père apprend au Fils à être un fils. Le Père délègue au Fils d'apprendre aux hommes qu'ils ont un Père et que ce Père est Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni d'une volonté humaine, mais de Dieu. C'est cette affirmation que l'on pressent à travers la Bible, notamment dans le sacrifice d'Isaac, en fait, que fait Abraham ? Il apprend à Isaac que son vrai père est Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous comprenons, je ne devrais pas dire nous comprenons, parce qu'on ne peut pas comprendre un mystère, mais nous comprenons mieux ce que pourrait être le mystère de la Trinité si nous en avions la claire vision, si nous pouvions rentrer dans ce domaine, dans ce dialogue permanent, dans cette relation trinitaire permanente. Mais justement, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous ne devons pas savoir en parler, nous ne saurons jamais en parler, nous devons simplement le vivre. Être chrétien, c'est vivre la Trinité.